Eh bien, bonjour chers auditeurs de Radio Axe, c'est Jean-Marie Marcos pour l'émission sur le bonheur. Il est là, le bonheur, puisque cette émission est enregistrée à peu près à 900 km de Sartrouville, à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Donc je vais partager avec vous quelques découvertes locales, un titre de November Ultra, puis parler du coaching des émotions avant un joli petit conte et un titre de Sting. Alors je vais vous faire partager cette semaine quelques découvertes et quelques lieux revus aussi pour le plaisir. Puisque j'ai eu la chance d'avoir un de mes grands-fils, Quentin, qui est venu passer une semaine avec nous. Donc en ce septembre de rentrée, en ce mois d'octobre qui commence là, tout juste, eh bien voici quelques clichés, quelques images de notre belle région dans cette émission qui est là pour parler du bonheur aussi, de découvrir nos belles régions de France et notamment celle où je me suis implanté. Alors, je veux d'abord parler des Corbières. En fait, lorsque nous sommes ici à Saint-Cyprien, au sud de Perpignan, nous voyons bien les montagnes qui nous séparent de l'Espagne, les monts des Alberts. Nous voyons parfaitement la grande montagne, le mont Canigou, qui est la montagne sacrée des Catalans et qui, ce matin, s'est couverte d'un premier manteau neigeux. Donc, c'était vraiment magnifique et dans la clarté du ciel, puisque nous avons la chance d'avoir très peu de pollution. Donc, la vue s'étend très, très loin. Et lorsqu'on regarde vers le nord, nous voyons des éperons rocheux, nous voyons des grandes collines de pierres grises. Et là, ce sont des Corbières. Et dans les Corbières, ben voilà, j'ai eu la chance d'aller visiter dans la vallée de l'Agly. Ici, chaque vallée a le nom, bien sûr, de la rivière qui coule au fond. Dans la vallée de l'Agly, d'aller voir un parc appelé Ecozonia, donc avec une très forte coloration écologique de sauvegarde des espèces et qui est un parc dédié aux prédateurs. Donc, nous avons pu le visiter avec mes fils et découvrir en effet de belles espèces et surtout dans un lieu vraiment qui laissait de l'espace et qui était vraiment très agréable à voir et à arpenter. Alors ça grimpait pas mal, hein, mes genoux ont un petit peu de mal, mais ont été largement payés des efforts par la beauté du lieu, mais surtout de cette région vraiment magnifique où les vergers et les vignes occupent la plaine, tandis que des éperons rocheux les contemplent dans un ciel bleu où tournent quelques rapaces. Nous sommes allés ensuite dans la vallée de Totavel, dans la vallée plus exactement de la Verdouble, du Verdouble, où se trouve Totavel. Alors Totavel est connu des historiens, puisque c'est à Totavel qu'on a fait la découverte de plus anciens restes. C'était un crâne d'un hominidé qui vivait il y a plus de 450 000 ans dans la région. C'est donc l'homme de Totavel, comme on l'appelle, donc représente maintenant le plus ancien européen qu'on ait pu trouver sur notre continent. Il fait partie de l'espèce Homo erectus, donc il était bien antécédent à l'Homo sapiens sapiens, qui est l'homme que l'on a découvert dans l'homme de Cro-Magnon, découvert dans des grottes du Périgord, notamment la célèbre grotte de Lascaux. Alors à Totavel, pas de peinture rupestre, mais un grand nombre de restes de nourriture, de restes animaux. Et surtout intéressant d'imaginer la vie de ces hominidés qui étaient des chasseurs cueilleurs qui néanmoins se fabriquaient des outils. Donc on retrouve aussi quelques sextaliers, mais qui sont moins évolués que ceux de nos ancêtres sapiens sapiens. Donc voilà pour la vallée de Totavel et les Corbières. Et franchement, c'est quelque chose à voir. Nous avons, qu'est-ce que j'ai retenu aussi, la jolie ville de Céré, Amélie-les-Bains, là on est plus au pied des montagnes, et avec des thermes très connus. Et puis nous avons fait une incursion aussi en Espagne. Nous sommes allés aller voir toujours dans la continuité de notre découverte du monde de Salvador Dali. Nous sommes allés voir le château que dans la région de Pubol que Dali avait offert à sa muse, à la femme de sa vie, celle qu'il a toujours aimée, Gala. Et c'était très touchant aussi de visiter ce lieu qui était un lieu pour se protéger justement du monde. C'était un endroit où elle pouvait se réfugier parce que dans leur maison de Cadaqués, à l'époque, il y avait beaucoup de visiteurs, beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes qui venaient les voir. Et ça devait être une vie très intéressante, passionnante, très dense, mais probablement très fatigante aussi. Alors Dali a voulu aussi offrir un lieu de calme et de sérénité à sa belle, qui d'ailleurs y vivait et le convoquait, l'invitait à venir. Il ne pouvait pas venir s'il n'était pas invité par Gala à venir la rejoindre. Donc on y voit aussi un petit atelier, on y voit des grandes sculptures dans le jardin d'éléphants à très longues pattes, et on peut découvrir le quotidien, le mobilier et des photos. Enfin, on y voit le quotidien d'une femme qui était très aimée et qui a vécu là de belles années. Ensuite, lorsqu'elle est décédée avant Dali, il a continué à retourner dans ce château pour lui aussi s'isoler et y peindre quelques œuvres. Donc ça, c'était pour le château de Gala, à voir absolument. C'est très complémentaire du musée théâtre de Dali et de la maison de Cadaqués. Je pense que c'est trois lieux importants lorsqu'on apprécie la peinture de ce génie très particulier, très loufoque, mais en même temps d'une qualité picturale et d'une imagination sans limite. Nous sommes allés aussi dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est l'Ans de Poli. Je vous en ai déjà parlé, une très belle petite crique au milieu des montagnes qui se jette dans la mer. Là, on est après Portvendres, entre Portvendres et Banyuls, donc après Collioure. C'était un lieu historique aussi où venaient débarquer toutes les troupes qui voulaient conquérir la région, et dont les très hautes tours sur les montagnes environnantes permettaient de voir arriver. Et donc cette anse de Poli est très très jolie. C'est une petite plage de galets et de sable un peu grossier, mais surtout voilà, entourée des montagnes, et surtout au bout d'un jardin merveilleux qui était le jardin de la dynamiterie des frères des frères Nobel, puisque si les Nobel sont connus pour les différents prix qu'ils ont financés, notamment le prix de la paix, il faut savoir que c'était des fabricants de dynamite. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec une très belle voix que j'ai découverte très récemment. C'est November Ultra. C'est une Française avec une voix très douce et qui nous chante Come Into My Arms.
Will grow inside your chest. your heart will lead to rest. So come into my arms. So come into my arms. Every now and then your tell so you can hide will grow inside your chest. Your heart will need to rest. So come into so come into my arms.
Eh bien, ce soir, après toutes ces belles émotions provoquées par la voix de November, je vais vous parler justement d'émotions. J'avais envie de parler de la beauté des émotions. Même si j'adore Christophe André, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle d'émotions négatives. En psychologie positive et en logique émotionnelle, eh bien, on parle d'émotions. Certaines sont très agréables, celles qui sont nommées positives, mais en fait, elles sont toutes positives. Mais certaines sont très agréables, comme la joie, la sérénité, l'enthousiasme. Et certaines sont plus difficiles à vivre. Elles sont inconfortables, elles sont désagréables. Elles sont même quelquefois douloureuses. Je parle bien sûr de toutes les déclinaisons de la peur, de la colère ou de la tristesse, de certaines aussi mauvaises surprises, qu'on va dire ce sont des émotions qui ne sont pas encore complètement colorées ou de dégoût qui ne sont pas agréables. Voilà. Mais en tout cas, on ne parle pas d'émotions négatives en psychologie positive et logique émotionnelle parce que elles nous sont toutes utiles. Les émotions sont, et les réactions corporelles qu'elles entraînent, nous soutiennent, bien sûr. Ce sont des langages, ce sont des messagers qui nous parlent de nos besoins. Chaque fois qu'une émotion est là, si l'émotion est agréable, eh bien, elle nous dit « tes besoins sont satisfaits ». Chaque fois que l'émotion est désagréable, elle nous dit « Attention, il y a des besoins qui ne te sont pas satisfaits. » Alors, bien sûr, on a la tristesse qui nous fait vivre des moments très difficiles, des, on se sent perdu, effondré à l'intérieur. On a la colère qui nous donne envie de péter les plombs, de tout casser. On a des manifestations physiques qui font qu'en effet, on va vivre plus ou moins bien ces émotions. Mais voilà, chaque émotion est une palette, est une symphonie de réactions corporelles. Chaque émotion est le fruit d'une évolution de plusieurs milliers d'années, d'adaptation, d'ajustement. Et tout a été minutieusement orchestré pour justement que ces émotions prennent soin de nous. Elles nous parlent de nos besoins. Et donc, c'est une chance de vivre des émotions. Les personnes qui ont certains types de maladies qui font qu'elles ne vivent pas d'émotions sont en grand manque. Elles ont du mal à vivre correctement parce qu'elles n'ont plus ces signaux, elles n'ont plus ces informations très importantes qui assurent à la fois notre survie, mais aussi notre équilibre, qui assurent notre harmonie intérieure de façon bien autonome. Elles sont gérées principalement par notre cerveau limbique, mais pas uniquement. Et surtout, voilà, elles sont là sans même qu'une conscience n'intervienne. On prend souvent conscience plus tard de ce que l'on a vécu comme émotion. Donc, ce sont des pouvoirs, des super-pouvoirs, disent certains, en tout cas des capacités qui nous permettent de prendre soin de nous. Et donc, c'est très important d'écouter. C'est très important de comprendre nos émotions, non pas pour les gérer, je n'aime pas du tout ce mot, et puis je pense que c'est un mot de comptable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer ses émotions, on peut gérer un budget, mais ce que l'on peut faire avec ses émotions, c'est les écouter, les accueillir, les comprendre. Ce que l'on peut faire avec ses émotions, c'est les réguler, c'est-à-dire éviter qu'une petite inquiétude se transforme en panique totale. C'est éviter qu'un léger agacement se transforme en grosse colère. C'est éviter qu'un coup de blues passager finalement devienne une dépression chronique. Donc voilà, c'est très important de prendre chaque émotion et de se dire ben, finalement... Ma peur, c'est une décharge d'adrénaline, c'est un rythme cardiaque, c'est un rythme respiratoire qui augmente. La peur est utile parce que le sang va affluer à la fois dans les muscles, dans les jambes. Notre pupille va se dilater pour mieux voir et la peur va aussi diriger le sang vers le cerveau pour prendre des décisions rapidement. Donc la peur augmente nos capacités physiques, nos perceptions, notre concentration, elle nous donne des ressources, de l'énergie. Le but étant de nous préserver, de préserver notre intégrité corporelle et psychique. Eh bien, la peur nous permet de vivre notre sécurité, d'assurer notre sécurité. De la même manière que la colère, eh bien, c'est un accélérateur du corps, voilà, la colère agit sur le cœur, la respiration, le système nerveux sympathique, sécrétion d'adrénaline aussi, comme pour la peur. Le sang va affluer vers les mains pour nous protéger. Elle prépare notre corps à l'action. Donc la colère, c'est de la puissance pour agir, pour traverser une situation, pour connecter à nos besoins, à nos valeurs. C'est une force. Une force aussi qui est une force existentielle. La colère nous permet de faire comprendre aux autres que nous existons et que nos besoins sont importants à prendre en considération. Quant à la tristesse, eh bien là, c'est le système sympathique qui s'active aussi. Le corps se tend, les lèvres, les voix tremblent, le système parasympathique se met en marche. On a un métabolisme qui se ralentit. On se recroqueville, on a éventuellement des larmes, et ça nous permet d'avoir un retour sur nous-mêmes. Ça ralentit notre métabolisme, je l'ai dit, ça nous donne de l'espace, du temps, ça nous permet de mesurer ce qui est important pour nous. C'est souvent la connexion à ce qui donne du sens à notre vie. Et donc, ça permet d'évacuer aussi les tensions, d'évacuer le trop-plein d'hormones de stress, la tristesse est très utile. Et comme je le dis dans les ateliers que je mène avec les enfants, merci la peur, merci la colère, merci la tristesse. Toutes ces émotions sont des émotions positives car elles nous aident, elles nous permettent de mieux vivre, elles sont des signaux, elles sont un langage que nous donne le corps et à nous de bien nous écouter pour aller bien sûr vers la joie, cette capacité justement qu'a notre corps de produire ces fameuses hormones du bonheur, ces neurotransmetteurs, dopamine, endorphine, qui nous permettent de ne plus ressentir la douleur et de ressentir beaucoup de plaisir. Et la joie va créer l'ouverture, l'énergie, la détente, le partage, la communion, la célébration, la motivation, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine, une vie sereine, dans la meilleure des relations avec nous et avec les autres. Le conte de ce soir a été écrit par Olivier Vidal. Il s'intitule « Le roi lion et les souris ». Le roi Hubris a le rugissement le plus puissant et le plus terrifiant de tous les animaux. Tout le monde sait qu'il descend du grand Mongol, lui-même d'origine divine. Ses réflexions, à l'heure si propice de la sieste, quand il laisse ses lionnes chasser, sont si justes et si brillantes, et son courroux si meurtrier, que tous attendent anxieusement sa parole. Seuls, Lisa et Marc, un couple de souris, échappent à la peur qui saisit chacun à la cour. Elles sont si furtives qu'elles se faufilent partout et viennent même murmurer à l'oreille des fauves pendant leur sommeil en toute impunité. D'aucuns prétendent qu'une part de l'intelligence des puissants leur vient de ces voix qui les inspirent à leur insu. Le couple de souris se retrouve tous les soirs, à l'heure du coucher du soleil, après le jour passé à fureter à la recherche de quelques graines, attendant leur tour de boire au point d'eau, à mi-chemin de la rivière à sec. J'ai encore entendu Hubris aujourd'hui raconter des sornettes, dit Marc. J'étais juste dans l'arbre au-dessus de sa tête quand ce monstre, pétri de certitude, a proposé d'étendre le territoire des lions au prétexte qu'ils sont plus intelligents et donc plus méritants que les autres animaux. Et que tous les animaux lui doivent désormais allégeance. Lui seul peut les protéger de Sapiens. Tout roi qu'il est, lui dit Lisa, il faut bien qu'il boive. Mais quand va-t-il s'arrêter? Jamais. Hubris continuera jusqu'à son lit de mort. Il lui en faut toujours plus. Il rêve tellement de grandeur, de gloire, qu'il réécrit l'histoire à la mémoire des lions. Qu'il exige d'occuper un monde plus vaste et sans cesse trop petit. Qu'il s'inquiète de ce qui lui échappe et croit dur comme fer qu'il y a le monde des lions et le monde des autres animaux indignes d'être vécus et à assimiler. Mais il va s'amuser avec Sapiens. Et voilà un autre qui se complaît dans la démesure. Tu vois Sapiens révérer le roi lion, crois-tu qu'ils aillent se faire la guerre? C'est vrai que quand je vois à quel point Sapiens est convaincu qu'il connaît le monde et qu'il a raison a priori en toutes circonstances, je me dis qu'il pourrait aussi s'appeler Hubris. Marc, j'ai peur que même nous, les souris, soyons exposés à la démesure. Oh, tu exagères. Nous sommes si petits, si furtifs, qui peut nous trouver menaçants? Et puis, s'il leur venait l'idée de s'en prendre à nous, il suffirait que nous leur glissions à l'oreille, pendant leur sommeil, ce que nous voulons qu'ils fassent. En fait, Lisa, l'air de rien. Nous sommes les maîtres du monde.
Oh, Marc, c'est bien ce que je me disais.
Tant nous nous captivons pour la déraison de l'autre, que nous nous rendons aveugles à la nôtre. Eh bien, c'était Il est là, le bonheur, la nouvelle émission sur le bonheur sur Radio Axe. Alors, à très bientôt, car où que vous soyez, il est là, le bonheur. Et en attendant la prochaine émission, soyez heureux.
The sun in his jealous sky, and we walked in fields of